Chapitre 29. Les Angolais lui racontèrent que tout avait augmenté, ou était devenu plus difficile, expression opaque censée expliquer pourquoi il réclamait davantage d'argent. « Ce n'est pas ce dont nous étions convenus, » dit Obinze. « Je n'ai pas de liquide disponible en ce moment. » Et ils répliquèrent, « Les choses ont augmenté, ouais, » d'un ton qu'il imagina accompagné d'un haussement d'épaule. Un silence suivit. Un mutisme sur la ligne qui lui signifiait que c'était son problème, pas le leur. « Je ferai le versement vendredi », dit-il finalement, avant de raccrocher. La gentillesse de Cléotilde l'apaisa. Elle lui dit « Ils ont mon passeport », et il trouva à ces mots quelque chose de sinistre, comme si elle était retenue en otage. « Sinon, nous pourrions nous arranger seuls », ajouta-t-elle. Mais il ne voulait pas agir seul avec Cléotilde. C'était trop important et il avait besoin de la compétence des Angolais, de leur expérience pour s'assurer que tout irait bien. Nicolas lui avait déjà prêté un peu d'argent. Il avait réellement répugné à le solliciter, à cause du jugement qu'il lisait dans son regard sérieux, comme s'il pensait qu'Obinze était un faible, un enfant gâté, et que beaucoup de gens n'avaient pas un cousin capable de leur prêter de l'argent. Emenike était la seule autre personne à laquelle il pouvait s'adresser. La dernière fois qu'il s'était parlé, Emenike lui avait dit « Je ne sais pas si tu as vu cette pièce de théâtre dans le West End, mais Georgina et moi y sommes allés récemment et nous l'avons adorée. » Comme si Obinze, occupé à faire des livraisons, économisant chaque sou stoïquement, miné par ses problèmes d'immigration, pouvait même penser avoir une pièce dans le West End. L'insouciance d'Emenike l'avait blessé car il y dénotait une absence d'intérêt, pire, une indifférence à son endroit et à la vie qu'il menait. Il téléphona à Emenike et lui dit, d'un ton précipité, forçant les mots à sortir de sa bouche, qu'il avait besoin de 500 livres qu'il rembourserait dès qu'il aurait trouvé un autre emploi. Puis, plus lentement, il raconta à Emenike l'histoire des Angolais, que le mariage n'allait pas tarder, mais qu'il y avait une quantité de dépenses supplémentaires qu'il n'avait pas prévues. Pas de problème. Voyons-nous vendredi. À présent, Emenike s'asseyait en face d'Obinze dans un restaurant aux lumières tamisées et se débarrassait de sa veste, exhibant un pull en cachemire couleur tabac d'un goût parfait. Il n'avait pas grossi, comme la plupart de ses autres amis qui vivaient maintenant à l'étranger. Il ne paraissait pas différent de ce qu'il était lorsqu'il l'avait vu la dernière fois à Nsuka.
Bon sang, le Z! « Tu as l'air en forme !»
dit-il avec une mauvaise foi flagrante. Obinze n'avait certes pas l'air en forme, les épaules courbées par la fatigue, dans des vêtements empruntés à son cousin.
« Désolé, je n'ai pas eu le temps de te voir, j'ai un emploi du temps dément. Et nous avons aussi beaucoup voyagé. Je t'aurais bien proposé de venir t'installer à la maison, mais ce n'est pas une décision que je peux prendre seule. Georgina ne comprendrait pas. » Tu sais que ces Oyimbos ne se comportent pas comme nous. »
Il eut un léger mouvement des lèvres, un petit rictus qui pouvait passer pour un sourire narquois. Il se moquait de sa femme, mais Obinze savait, à la crainte muette perceptible dans son ton, que c'était une moquerie teintée de respect, qu'Emenike raillait ce qu'il croyait être, malgré lui, d'une essence supérieure. Obinze se souvint de ce que Kayode disait souvent d'Emenike au lycée. Il peut lire tous les livres qu'il veut, mais il aura toujours la brousse dans le sang.
Nous rentrons d'Amérique. Vieux, il faut que tu ailles en Amérique. Il n'existe aucun pays comme celui-là au monde. Nous avons atterri à Denver et de là sommes allés dans le Wyoming en voiture. Georgina venait de boucler une affaire compliquée, tu te souviens? Je t'en ai parlé quand je suis partie à Hong Kong. Elle s'y trouvait pour son travail et je suis allée la rejoindre pour un long week-end. J'ai alors pensé que nous devrions aller en Amérique. Elle avait besoin de vacances.
Le téléphone d'Emenike sonna. Il le sortit de sa poche, le regarda et fit une grimace, comme s'il voulait qu'on l'interroge sur la teneur du texto. Mais Obinze ne posa pas de questions. Il était fatigué. Iloba lui avait passé sa carte de sécurité sociale, bien qu'il soit risqué pour tous les deux de travailler en même temps. Mais toutes les agences de placement qu'Obinze avait contactées jusque-là voulaient voir un passeport, et pas seulement la carte. Sa bière était éventée et il voulait juste qu'Emenike lui donne l'argent.
Mais Emenike se remit à parler, gesticulant, avec des mouvements fluides et assurés, l'attitude d'un homme convaincu de savoir ce que les autres ne peuvent savoir. Pourtant, il y avait quelque chose de différent chez lui, qu'Obinze ne parvenait pas à nommer. Emenike parla longtemps, commençant parfois ses propos par « Ce que tu dois comprendre s'agissant de ce pays, c'est ceci. »
Obinze concentra sa pensée sur Cléotilde. Les Angolais avaient dit que deux personnes au moins devaient l'accompagner à Newcastle, pour éviter les soupçons. Mais elle l'avait appelé la veille, en proposant de n'amener qu'un ami, pour lui épargner de payer le train et l'hôtel pour deux. Il avait trouvé ça délicat, mais lui avait demandé de venir quand même avec deux personnes. Il ne voulait pas prendre de risques. Emenike parlait de quelque chose qui s'était passé à son bureau.
« J'arrive le premier à une réunion. Je range mes dossiers. Je vais aux toilettes et à mon retour, je trouve ce crétin d'Oyimbo qui me dit « Oh, je vois que vous êtes toujours à l'heure africaine. » Et tu sais quoi ? Je lui ai répondu d'aller se faire voir. Depuis, il passe son temps à m'envoyer des emails m'invitant à prendre un verre. Un verre pour quoi faire ? »
Emenike but lentement sa bière. C'était la troisième et il parlait plus fort, moins clairement. Toutes ces histoires se déroulaient selon un schéma identique. Quelqu'un commençait par le sous-estimer ou le rabaisser, et il finissait par avoir le dessus, grâce à un dernier mot brillant ou une action astucieuse.
« Naija me manque. Cela fait si longtemps, mais je n'ai pas eu le temps de revenir à la maison. De plus, Georgina ne survivrait pas à un voyage au Nigeria. »
dit Emenike, puis il rit. Il avait présenté le pays comme une jungle, et lui-même comme interprète de la jungle.
« Une autre bière ?»
demanda Emenike. Obinze secoua la tête. Un homme, en s'installant à la table derrière eux, fit tomber la veste d'Emenike, suspendue au dossier de sa chaise.
« Hé, regarde-moi ce type ! Il tient à abîmer ma superbe aqua scutum, le dernier cadeau d'anniversaire de Georgina !»
dit Emenike, raccrochant sa veste derrière lui.
Obinze ne connaissait pas la marque, mais il comprit au petit sourire satisfait d'Emenike qu'il était censé être impressionné. « Tu es certain de ne pas vouloir une autre bière ?»
demanda Emenike, cherchant la serveuse du regard.
Elle m'ignore. « As-tu remarqué comme elle était désagréable tout à l'heure ? Ces gens d'Europe de l'Est n'aiment pas servir les Noirs. »
Lorsque la serveuse eut pris sa commande, Emenike sortit une enveloppe de sa poche.
« Voilà, mon vieux. Je sais que tu as demandé 500, mais il y a 1000 livres. Tu veux les compter ?»«
Les compter ?» faillit dire Obinze, mais les mots ne passèrent pas le seuil de sa bouche. Accepter de l'argent à la manière nigériane consistait à laisser l'autre le glisser dans vos mains, les poings fermés, le regard détourné, vos remerciements chaleureux, ils doivent être chaleureux, écartés d'un geste de la main, sans qu'il soit question pour vous de compter l'argent, et parfois sans même le regarder avant d'être seul. Mais Emenike lui demandait de compter l'argent. Et c'est ce qu'il fit, lentement, délibérément, passant chaque billet d'une main à l'autre, se demandant si Emenike l'avait détesté pendant toutes ses années de lycée et d'université. Il ne s'était pas moqué d'Emenike, comme le faisaient Kayode et les autres garçons, mais il ne l'avait pas non plus défendu. Peut-être Emenike avait-il méprisé sa neutralité.
« Merci, mon vieux, » dit Obinze. Bien entendu, il y avait 1000 livres.
Emenike pensait-il qu'un billet de 50 avait pu se perdre sur le chemin du restaurant ?
« Ce n'est pas un prêt, »
dit Emenike, se renfonçant dans sa chaise avec un mince sourire.
« Merci, mon vieux, »
dit à nouveau Obinze, reconnaissant et soulagé en dépit de tout. Il s'inquiétait du nombre de choses qui restaient à payer avant le mariage, et si c'était nécessaire, compter le montant d'un cadeau en liquide sous le regard observateur et dominateur d'Emenike. Pourquoi pas ? Le téléphone d'Emenike sonna.
« C'est Georgina !» dit-il gaiement avant de répondre.
Sa voix monta d'un cran à l'intention d'Obinze.
« C'est fantastique de le revoir après si longtemps !»
Puis après un silence,
« Bien sûr, chérie, c'est ce que nous allons faire !»
Il posa le téléphone et dit à Obinze,
« Georgina voudrait venir nous rejoindre dans une demi-heure et que nous allions dîner ensemble. Cela te va ? »
Obinze haussa les épaules.
Je ne refuse jamais un repas. » Avant que Georgina arrive, Emenike lui dit « Ne mentionne pas cette affaire de mariage devant Georgina. » À la manière dont Emenike en parlait, Obinze s'était figuré que Georgina était une charmante innocente, une avocate brillante, ignorant cependant les maux du monde. Mais quand elle apparut, avec son visage carré, surmontant un grand corps carré, des cheveux bruns coupés courts, le tout lui donnant un air d'efficacité, il vit tout de suite qu'elle était franche, avisée et même désabusée. Il imagina que ses clients avaient immédiatement confiance en ses capacités. C'était une femme qui devait vérifier les finances des organisations caritatives auxquelles elle faisait des dons. C'était une femme qui survivrait certainement à une visite au Nigeria. Pourquoi Emenike l'avait-il décrite comme une rose anglaise sans défense? Elle posa un baiser sur les lèvres d'Emenike, puis se tourna pour serrer la main d'Obinze. « Avez-vous une envie particulière ?» lui demanda-t-elle en déboutonnant sa veste en daim marron. « Il y a un bon restaurant indien pas loin d'ici. »«
Oh, il est un peu décrépit, »
dit Emenike. Il avait changé. Sa voix avait une intonation inhabituelle, plus lente. La tension qui l'habitait avait diminué.
« Nous pourrions essayer ce nouvel endroit à Kensington. Ce n'est pas si loin. »
« Je ne suis pas sûre qu'Obinze le trouvera très intéressant, chérie, » dit Georgina.
« Oh, je pense qu'il lui plaira, » dit Emenike.
Il était content de lui. Voilà ce qu'il y avait de nouveau chez lui. Il était marié à une Britannique, vivait dans une maison britannique, avait un travail britannique et voyageait avec un passeport britannique, disait « exercice » pour parler d'une activité intellectuelle plutôt que physique. Il avait désiré cette existence et n'avait jamais cru qu'il l'aurait. À présent, il était confit dans le contentement de soi. Repu. Dans le restaurant de Kensington, une bougie brûlait sur la table et le garçon blond, qui semblait trop beau et trop grand pour être un serveur, apportait des petits bols remplis d'une sorte de gelée verte. Notre nouvelle mise en bouche à base de citron et de thym, avec les compliments du chef. Fantastique! Dit Emenike, s'immergeant sans attendre dans un des rituels de sa nouvelle existence. Sourcils froncés, concentrés, sirotant une eau gazeuse tout en étudiant le menu. Georgina et lui discutaient des entrées. Le serveur vint aimablement répondre à une question. Obinze s'étonna de voir avec quel sérieux Emenike prenait cette initiation au vaudou de la grande cuisine. Car lorsque le garçon lui apporta ce qui ressemblait à trois brins élégants d'une herbe verte, pour lesquels il paierait 13 livres, Emenike se frotta les mains de ravissement. Le hamburger d'Obinze était divisé en 4 parties, servi dans une grande coupe en verre. Quand la commande de Georgina arriva, un petit tas de viande rouge crue, avec un œuf ensoleillé posé dessus, Obinze s'efforça de détourner les yeux de peur de vomir. Emenike alimenta presque seule la conversation, racontant leurs années d'école, donnant à peine à Obinze l'occasion de dire un mot. Dans les histoires qu'il rapportait, Obinze et lui étaient des voyous populaires qui avaient le don de s'attirer des ennuis extraordinaires. Obinze observait Georgina, soudain conscient qu'elle était plus âgée qu'Emenike, d'au moins 8 ans. Les contours masculins de son visage étaient adoucis par de brefs et fréquents sourires, mais c'étaient des sourires pensifs, les sourires de quelqu'un d'un naturel sceptique. Et il se demandait jusqu'à quel point elle croyait les histoires d'Emenike, à quel point l'amour avait pris le pas sur sa raison. « Nous donnons un dîner demain, Obinze, » dit Georgina. « Il faut que vous veniez ?»«
Oui, j'ai oublié de te le dire, » ajouta Emenike.
« Il faut vraiment que vous veniez. Nous aurons quelques amis et je pense que vous aimerez faire leur connaissance, » dit Georgina.
J'en serais ravie, dit Obinze.
Leur maison mitoyenne à Islington, avec sa courte volée de marches bien entretenue qui menait à la porte d'entrée verte, sentait la viande rôtie quand Obinze arriva. Emenike le fit entrer.
Le Z, tu en avances, nous finissons de préparer le dîner. Viens t'installer dans mon bureau jusqu'à ce que les autres arrivent.
Emenike le conduisit à l'étage, dans une pièce claire et lumineuse que soulignait le blanc des bibliothèques et des rideaux. Les fenêtres occupaient la plus grande partie des murs
et Obinze se représenta la pièce l'après-midi, baignée de lumière, et s'imagina calé au fond du fauteuil près de la porte, absorbé dans un livre.
« Je viendrai te chercher dans un moment »,
dit Emenike. Il y avait des photos sur un appui de fenêtre, Emenike plissant les yeux dans la chapelle Sixtine, faisant le signe de la paix sur l'acropole devant le Colisée, sa chemise de la même couleur noix de muscade que les ruines. Obinze l'imagina, consciencieux et déterminé, visitant les endroits qu'il était censé visiter, pensant non pas à ce qu'il voyait, mais aux photos qu'il allait prendre et à ceux qui regarderaient les photos. Aux gens qui sauraient qu'il avait participé à ses triomphes. Sur un rayonnage, Graham Greene attira son regard. Il prit le fond du problème et commença à lire les premiers chapitres, pensant soudain avec nostalgie à son adolescence, quand sa mère le lisait et le relisait à quelques mois d'intervalle. Emenike entra. « Est-ce Evelyn Waugh ?»«
Non. »
Il lui montra la couverture. « Ma mère adore ce livre. Elle essayait toujours de me faire aimer les romans anglais. »
Waugh est le meilleur.
Retour à Brideshead est ce que j'ai lu de plus proche du roman parfait. Pour moi, Waugh est un caricaturiste. Je n'arrive pas à me faire à ces prétendus romans comiques anglais. On dirait qu'ils sont incapables d'aborder la véritable complexité de la vie humaine et sont obligés de faire appel à ces ressorts comiques. Green est l'autre extrême, trop morose.
Non, mon vieux, il faut que tu essayes de relire Waugh.
Green n'est pas vraiment mon truc, mais la première partie de « La fin d'une liaison » est formidable.
« Ce bureau est un rêve », dit Obinze.
Emenike haussa les épaules. « Tu veux des livres ? Prends tous ceux qui t'intéressent. »«
Merci, vieux »,
dit Obinze, sachant qu'il n'en prendrait aucun. Emenike regarda autour de lui, comme s'il voyait la pièce d'un œil neuf.
« Nous avons trouvé ce bureau à Édimbourg. » Georgina possédait déjà quelques meubles intéressants, mais nous avons trouvé ensemble certains nouveaux objets.
Obinze se demanda si Emenike avait si bien endossé son nouveau costume que, même seul avec lui, il pouvait parler de meubles intéressants, comme si la notion de meubles intéressants n'était pas étrangère à leur monde nigérian, où ce qui était nouveau était supposé paraître neuf. Obinze aurait pu le faire remarquer à Emenike, mais pas à présent. Trop de choses s'étaient déjà modifiées dans leur relation. Obinze le suivit au rez-de-chaussée. La table de la salle à manger était une débauche de couleurs, assiettes de céramique dépareillées, certaines ébréchées sur les bords, verres à pied rouges, serviettes bleu foncé. Dans une coupe d'argent, au milieu de la table flottaient de délicates fleurs nacrées. Emenike fit les présentations.
Voici Marc, l'ami de toujours de Georgina, et sa femme, Hannah, qui fait une thèse sur l'orgasme féminin, ou l'orgasme féminin des Israéliennes.
Oh, elle n'est pas délimitée aussi précisément, dit Hannah, au milieu des rires, en serrant chaleureusement la main d'Obinze. Elle avait un large visage bronzé et bienveillant, le visage de quelqu'un qui ne supporte pas le conflit. Marc, le teint pâle, fripé, pressa l'épaule de sa femme, mais ne rit pas avec les autres. « Ravi de faire votre connaissance, » dit-il à Obinze d'une manière presque solennelle.
« Voici notre cher ami Philippe, le meilleur avocat de Londres, après Georgina, naturellement. « Est-ce que tous les Nigérians sont aussi beaux que toi et ton ami ?»
demanda Philippe à Emenike, feignant de se pâmer en serrant la main d'Obinze.
« Tu n'as qu'à aller au Nigeria et juger par toi-même, »
répliqua Emenike avec un clin d'œil, donnant l'impression de flirter avec Philippe. Mince, élégant, Philippe portait une chemise de soie rouge au col ouvert. Avec ses manières affectées, ses gestes souples du poignet, ses doigts qui virevoltaient dans l'air, il rappela à Obinze un garçon au lycée. Il s'appelait Adomé, dont on disait qu'il payait des jeunes pour lui sucer la bite. Un jour, Emenike et deux autres garçons avaient attiré Adomé dans les toilettes et l'avaient rossé. L'œil d'Adomé avait enflé si vite qu'avant la fin des cours, il était devenu monstrueux, semblable à une grosse aubergine violette. Obinze était resté à l'intérieur des toilettes avec les autres garçons, qui n'avaient pas participé à la rossée, mais n'avaient cessé de se moquer, harcelant,
raillant, criant
« Homo ! Homo !»
« Et je te présente notre amie Alexa », disait Emenike. Alexa vient de s'installer dans Highland Park après plusieurs années en France, grâce à quoi nous aurons la chance de la voir beaucoup plus souvent. Elle travaille dans l'édition musicale. C'est aussi une merveilleuse poétesse.
« Oh, je t'en prie », dit Alexa. Et se tournant vers Obinze, elle demanda « Et vous, d'où êtes-vous, mon cher ?»«
Du Nigeria. »
« Non, non, je veux dire à Londres, mon cher. »
« J'habite dans l'Essex, en réalité, » dit-il.
« Je vois, »
dit-elle comme si elle était déçue. C'était une petite femme au visage très pâle et aux cheveux rouges tomates.
« Peut-on passer à table, mes chers amis ?»
Elle prit une des assiettes et l'examina.
« J'adore ces assiettes. Rien n'est jamais banal chez Georgina et Emenike, n'est-ce pas ?»
dit Hannah.
« Nous les avons achetées dans un bazar en Inde, » dit Emenike. « Faites à la main par des femmes de la campagne. Elles sont vraiment belles. Regardez les détails des bords. »
Il souleva une des assiettes.
« Sublime !» dit Hannah, et elle regarda Obinze.
« Oui, elles sont très jolies, » marmonna Obinze. Ces assiettes, avec leur finition grossière, leurs bords légèrement bosselés, n'auraient jamais été utilisées en présence d'invités au Nigeria. Il se demandait encore si Emenike était réellement devenu quelqu'un pour qui un objet était beau parce qu'il était fait à la main par des gens pauvres dans un pays étranger, ou s'il avait simplement appris à le prétendre. Georgina versait à boire. Emenike servait l'entrée, du crabe avec des œufs durs. Il avait acquis un charme soigneusement étudié. Il disait souvent
« Oh, vraiment ?»
Quand Philippe se plaignit du couple français qui faisait construire une maison près de la sienne en Cornouailles, Emenike dit «
Sont-ils entre toi et le coucher de soleil ?»«
Sont-ils entre toi et le coucher de soleil ?» Il ne serait jamais venu à l'idée d'Obinze, ni de quiconque chez lui, de poser une telle question.
« Alors, comment c'était l'Amérique ?» demanda Philippe.
« C'est un pays fascinant, réellement. Nous avons passé quelques jours avec Hugo à Jackson, dans le Wyoming. Tu as rencontré Hugo à Noël, n'est-ce pas, Marc ?»«
Oui. Et que fait-il là-bas ?»
Marc ne semblait pas impressionné par les assiettes. Il n'avait pas, comme sa femme, soulevé l'une d'elles pour la regarder.
C'est une station de ski, mais elle n'a rien de prétentieux. À Jackson, on raconte que les gens qui vont à Aspen s'attendent à ce qu'on leur lasse leurs chaussures, dit Georgina.
L'idée de faire du ski en Amérique me rend malade, dit Alexa.
Pourquoi ?
Demanda Hannah.
Est-ce qu'ils ont un Disneyland dans la station, avec Mickey en tenue de ski ?
Demanda Alexa.
Alexa n'est allée qu'une seule fois en Amérique, quand elle était à l'université, mais elle adore les détester de loin, dit Georgina.
Toute ma vie, j'ai adoré l'Amérique de loin, dit Obinze. Alexa se tourna vers lui, l'air un peu surpris, comme soudain étonné de l'entendre parler. Sous la lumière du lustre, ses cheveux rouges avaient un reflet étrange.
Ce que j'ai remarqué ici, c'est que beaucoup d'Anglais ont une admiration craintive pour l'Amérique, mais qui lui voue aussi une profonde hostilité, ajouta Obinze.
Parfaitement vrai,
dit Philippe, avec un signe de tête à l'adresse d'Obinze.
Parfaitement vrai. C'est l'hostilité d'un parent dont l'enfant est devenu beaucoup plus beau que lui et qui mène une vie beaucoup plus intéressante. Mais les Américains nous adorent, nous les British. Ils adorent notre accent, la reine et les autobus à Impérial,
dit Emenike. Voilà, il l'avait dit. Il se considérait comme un Britannique.
Et vous savez la grande révélation qu'a eue Emenike pendant que nous étions là-bas ?
Dit Georgina en souriant.
C'est la différence entre le bye américain et le bye britannique.
Bye ? Demanda Alexa.
Oui, il dit que les Anglais le prononcent en traînant sur le mot alors que les Américains ne s'attardent pas.
Ce fut une grande révélation. Cela explique toute la différence entre les deux pays.
Dit Emenike, sachant qu'il rirait, ce qu'ils firent.
Je pensais aussi à la différence d'attitude vis-à-vis des étrangers. Les Américains vous sourient et sont très amicaux. Mais si votre nom n'est pas Corey ou Chad, ils ne font aucun effort pour le prononcer correctement. Les Britanniques seront revêches et soupçonneux si vous vous montrez trop amical. Mais ils traiteront les noms étrangers comme s'ils étaient acceptables.
C'est intéressant, dit Hannah.
C'est un peu lassant de dire que l'Amérique est bornée, reprit Georgina. D'ailleurs, nous y contribuons, car si un événement majeur se produit en Amérique, il fait les gros titres en Angleterre. Un événement majeur se produit en Angleterre, on le trouve en dernière page en Amérique, ou pas du tout. Mais je pense que le plus inquiétant est la véhémence du nationalisme. Tu ne crois pas, chérie ? Georgina se tourna vers Emenike.
Absolument, dit Emenike.
Oh, et nous avons aussi assisté à un rodéo. Hugo a pensé que nous apprécierions un peu de culture.
Il y eut un éclat de rire général.
Et nous avons vu cet incroyable défilé de petits-enfants au visage exagérément maquillé, suivi de démonstrations patriotiques et de « God bless America » à n'en plus finir. J'ai eu peur que ce soit le genre d'endroit où tout peut arriver si vous dites soudain « Je n'aime pas l'Amérique ».
L'Amérique m'a aussi paru affreusement chauvine quand j'y ai fait mon internat, dit Marc.
Marc est chirurgien pédiatre, dit Georgina à Obinze.
On avait l'impression que les gens, je parle des progressistes, car les conservateurs américains viennent d'une autre planète, même pour le Tory que je suis, pouvaient sans problème critiquer leur pays, mais qu'ils n'aimaient pas que d'autres le fassent,
dit Marc.
Où étais-tu ? Demanda Emenike, comme s'il connaissait les plus petits recoins de l'Amérique.
À Philadelphie, dans un hôpital appelé le Children's Hospital, un endroit tout à fait remarquable, et la formation était excellente. Il m'aurait fallu 2 ans en Angleterre pour rencontrer les cas exceptionnels que j'ai eus là-bas en 1 mois.
Mais tu n'es pas restée, dit Alexa, presque triomphante.
Je n'avais pas prévu de rester.
Le visage de Marc ne trahissait presque aucune émotion.
À ce propos, je viens de m'investir dans ce fantastique organisme humanitaire qui essaye d'empêcher l'Angleterre d'engager autant de personnel médical africain, dit Alexa. Il ne reste pratiquement plus de médecins ni d'infirmières sur ce continent. C'est une véritable tragédie. Les médecins africains devraient rester en Afrique.
Pourquoi ne voudraient-ils pas exercer là où il y a de l'électricité en permanence et où ils sont payés régulièrement ?
Demanda Marc d'un ton neutre. Obinze devina qu'il n'aimait pas Alexa.
Je suis originaire de Grimsby et je n'aurais aucune envie de travailler dans un hôpital du district.
Mais ce n'est pas tout à fait pareil, si ? Nous parlons de gens parmi les plus pauvres du monde. Les médecins ont une responsabilité en tant qu'Africains, dit Alexa. La vie est injuste, vraiment. S'ils ont le privilège d'avoir un diplôme médical, cela va de pair avec la responsabilité d'aider leurs concitoyens.
Je vois. Je suppose qu'aucun de nous ne devrait avoir ce genre de responsabilité pour la situation désastreuse des villes sinistrées du nord de l'Angleterre, dit Marc.
Le visage d'Alexa s'empourpra. Dans le silence tendu qui suivit, l'air se figeant autour d'eux, Georgina se leva et dit
« Tout le monde est prêt pour attaquer mon rôti d'agneau ?»
Ils firent tous l'éloge de la viande qu'Obinze aurait souhaité voir rester un peu plus longtemps dans le four. Il découpa soigneusement le bord de sa tranche, mangeant la partie bien cuite et laissant dans son assiette les morceaux saignants. Hannah animait la conversation, comme pour adoucir l'atmosphère d'une voix apaisante, changeant de sujet si elle percevait la menace d'un désaccord. Leur conversation était symphonique, les voix se mêlant les unes aux autres, en harmonie. C'était vraiment atroce de traiter ainsi les ramasseurs de coqs chinois. C'était absurde de vouloir rendre payante l'éducation supérieure. C'était grotesque que les défenseurs de la chasse aux renards aient envahi le Parlement. Ils rirent quand Obinze dit « Je ne comprends pas pourquoi la chasse aux renards soulève un tel intérêt dans ce pays. N'y a-t-il pas des problèmes plus importants ?»«
Qu'est-ce qui pourrait être plus important ?» demanda Marc ironiquement.
« Eh bien, c'est la seule manière dont nous pouvons mener notre lutte des classes ?» dit Alexa. « L'aristocratie et les propriétaires terriens chassent et nous, la classe moyenne libérale, sommes furieux. Nous voulons leur retirer leur ridicule petite distraction. »
« Certes, » dit Philippe, « c'est monstrueux. »
« Avez-vous lu que Blunkett a déclaré ne pas savoir combien il y avait d'immigrants dans le pays ?»
demanda Alexa, et Obinze se crispa immédiatement, sentant sa poitrine se contracter.
« Immigrant est bien entendu le nom de code pour musulman, » dit Marc. « S'il veut vraiment le savoir, il n'a qu'à se rendre dans tous les chantiers de ce pays et à faire le décompte, » dit Philippe.
C'était intéressant de voir comment cette question est abordée aux États-Unis.
dit Georgina. Eux aussi font tout un foin à propos de l'immigration. Bien que, naturellement, l'Amérique ait toujours été plus accommodante envers ses immigrants que l'Europe.
Bon, c'est vrai. Mais c'est parce que les pays d'Europe ont été fondés sur l'exclusion, et non comme l'Amérique sur l'inclusion, dit Marc.
Mais la psychologie aussi est différente, n'est-ce pas ?
Répondit Hannah. Les pays qui entourent l'Europe sont plus ou moins similaires, alors que les États-Unis ont pour voisin le Mexique, qui est en réalité un pays en voie de développement, et cette situation crée une approche différente concernant l'immigration et les frontières.
Mais nous n'avons pas d'immigrants du Danemark.
Nous avons des immigrants d'Europe de l'Est, qui est notre Mexique, dit Alexa.
Sauf pour la race, dit Georgina. Les Européens de l'Est sont blancs, les Mexicains ne le sont pas.
Au fait, comment as-tu perçu la question raciale aux États-Unis, Emenike ?
Demanda Alexa.
C'est un pays terriblement raciste, n'est-ce pas ?
Il n'a pas besoin d'aller en Amérique pour cela, Alexa, dit Georgina.
J'ai eu l'impression qu'en Amérique, les Blancs et les Noirs travaillent ensemble mais ne jouent pas ensemble. Alors qu'ici, les Noirs et les Blancs jouent ensemble mais ne travaillent pas ensemble,
dit Emenike. Les autres hochèrent la tête d'un air grave, comme s'il avait énoncé quelque chose de profond. Mais Marc dit
« Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Je pense que la notion de classe dans ce pays fait partie de l'air que l'on respire. Chacun connaît sa place. Même ceux qui sont révoltés par cette notion acceptent plus ou moins le rang qu'ils occupent, » dit Obinze. Ici, un garçon blanc et une jeune fille noire qui ont grandi dans la même ville ouvrière peuvent sortir ensemble, et la race sera secondaire. Mais en Amérique, même s'ils grandissent dans le même quartier, la race sera primordiale.
Alexa lui jeta à nouveau un regard surpris.
Un peu simplifié, mais oui, c'est à peu près ce que je voulais dire,
dit lentement Emenike, se renfonçant dans sa chaise, et Obinze perçut un reproche. Il aurait dû se taire. Après tout, c'était Emenike qui était sur scène.
Mais ici, tu n'as pas vraiment été confronté à des manifestations de racisme, n'est-ce pas, Emenike ?
Demanda Alexa, et son intonation impliquait qu'elle savait déjà que la réponse était non.
Bien sûr, les gens ont des préjugés, mais n'avons-nous pas tous des préjugés ?
Eh bien non, dit fermement Georgina. Tu devrais raconter l'histoire du chauffeur de taxi, chérie. Oh, cette histoire,
dit Emenike en se levant pour servir le fromage, murmurant quelque chose à l'oreille de Hannah qui la fit sourire. Il était tellement heureux de vivre dans le monde de Georgina.
Raconte, dit Hannah, et Emenike s'exécuta.
Il raconta l'histoire du taxi qu'il avait hélé un soir dans Upper Street. De loin, la lumière du taxi était allumée, mais en se rapprochant de lui, elle s'était éteinte, et il avait supposé que le chauffeur n'était pas de service. Après le passage du taxi, il s'était vaguement retourné et avait vu que la lumière s'était rallumée. Et un peu plus loin dans la rue, il s'était arrêté pour prendre deux femmes blanches. Emenike avait déjà raconté cette histoire à Obinze, qui s'étonna de l'entendre la raconter différemment. Il passait sous silence la rage qu'il avait éprouvée debout, dans la rue, en regardant le taxi. Il était resté sur place, secoué de tremblements, avait-il dit à Obinze, effrayé par la violence de ses sentiments. Mais à présent, vidant lentement son verre de vin rouge, les fleurs flottant devant lui, il parlait d'un ton dénué de toute colère, empreint seulement d'une supériorité amusée, pendant que Georgina s'exclamait
« C'est incroyable, non ?»
Alexa, le teint enflammé par le vin, les yeux rouges sous sa chevelure écarlate, changea de sujet.
« Blunkett doit se montrer raisonnable et faire en sorte que ce pays reste un refuge. Les gens qui ont survécu à des conflits terribles doivent absolument être autorisés à venir ici. »
Elle se tourna vers Obinze.
« C'est aussi votre avis, n'est-ce pas ?»«
Oui, » dit-il, et un sentiment d'aliénation le parcourut comme un frisson. Alexa et les autres invités, peut-être même Georgina, comprenaient tous la fuite devant la guerre, devant la pauvreté qui broyait l'âme humaine, mais ils étaient incapables de comprendre le besoin d'échapper à la léthargie pesante du manque de choix. Ils ne comprenaient pas que des gens comme lui, qui avaient été bien nourris, n'avaient pas manqué d'eau,
mais étaient englués dans l'insatisfaction, conditionnés depuis leur naissance à regarder ailleurs, éternellement convaincus que la vie véritable se déroulait dans cet ailleurs, étaient aujourd'hui prêts à commettre des actes dangereux, des actes illégaux, pour pouvoir partir, bien qu'aucun d'entre eux ne meure de faim, n'ait été violé ou ne fuit des villages incendiés, simplement avides d'avoir le choix, avides de certitude.